Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
On est ravis de vous retrouver comme tous les samedis matins pour parler de télé à la radio pendant une heure. Info, décryptage, zapping et aujourd'hui un invité qui revient de loin. Koh-Lanta, ce n'est rien comparé à ce qu'il a vécu sur le tournage de son dernier film. Ça s'appelle Homme au bord de la crise de nerfs.
Oui, et lui, ça fait longtemps qu'il est au bord de la crise de nerfs, notre invité. En 1984 déjà, quand il avait adressé à la télé un message à un automobiliste.
Ceci est un message au conducteur de la 205 verte qui se trouvait au coin de la rue du Soube et de la rue Réaumur le 17 décembre vers 15h30. Quand il y a des encombrements et qu'une voiture s'engage alors qu'elle ne peut pas traverser le carrefour, bloquant ainsi la rue perpendiculaire, ça crée un embouteillage. Alors, c'est juste un message à cette voiture. Monsieur, vous êtes un gros con et je vous emmerde.
Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour. Ouais, bonjour. Il y a des sujets importants dans la vie.
Ça n'a pas beaucoup changé depuis 38 ans, hélas, la circulation à Paris.
Oui, les gens s'engagent dans les carrefours qui ne peuvent
toujours
pas traverser.
Et vous les traitez toujours de gros cons.
Non, je suis devenu philosophe à l'époque.
Vous vous déplacez toujours en voiture ou pas dans Paris?
Très peu, bah non, on peut plus. Là.
Ah, c'est plus possible. Il va falloir deux jours devant soi.
Voilà, non.
On capitule.
On est en métro, là, ouais.
Alors Paris, sa circulation, sa pollution, vous allez en être très loin mercredi prochain au cinéma dans le nouveau film d'Audrey Dana, Homme au bord de la crise de nerfs, direction Le Vercors, magnifique, avec un coaching musclé de 4 jours. Enfin, dans le film, parce que pour vous, ça a duré 2 mois.
Moi, je crois aller dans un spa. Et puis j'arrive dans un stage de survie, donc je suis très déçu. Donc ce stage dure 4 jours, en l'occurrence, dans des conditions épouvantables pour les gens qui le font. Mais nous, on a tourné 2 mois, effectivement. Mais ce qui veut dire que les scènes qui durent 2-3 minutes dans le film qu'on regarde, on a passé la journée dedans.
C'est très sympathique, ça. Ouais. Je pense notamment à la scène où vous avez le corps enseveli, il n'y a que la tête qui dépasse du sol.
On est enterré, oui.
Ça a duré combien de temps?
Deux fois 4 heures, quoi.
Non, vous êtes resté pendant 8 heures comme ça?
Oui.
Ah non, mais Koh-Lanta et l'épreuve des poteaux, à côté, c'est rien.
Ah oui, non. Non, franchement, c'est extrêmement désagréable parce que bon, on est enterré. Alors, on était un peu protégé à l'intérieur, mais on pouvait pas sortir comme on voulait. On était recouvert de terre jusqu'au cou. Donc, les bras, on se rend compte de l'utilité du bras et de la main. C'est quand même très.
On se gratte sans arrêt.
On se gratte le nez, les insectes qui montent dedans, puis le sentiment de fragilité, là, de vulnérabilité, avec les techniciens qui passent à côté, avec des objets très lourds.
Ils auraient pu vous oublier aussi, dire à demain.
Ouais, ouais.
Homme au bord de la crise de nerfs. On va en reparler tout au long de cette émission où il y aura aussi des épreuves, Thierry Lhermitte, mais rassurez-vous. Ah oui. Ce sera très soft comparé au film. On commence avec un petit test de mémoire.
Archive ou archifaux,
ce que l'on affirme sur vous, Thierry Lhermitte, à vous de nous le dire.
Alors, vous avez proposé dans le magazine de la santé sur France 5 une chronique consacrée au mal de dos. Archive ou archifaux?
Non, c'est vrai.
Ouais. Mais là, c'est pas vraiment une chronique.
Non. Vous aviez donné des conseils bien utiles lors du témoignage d'un jeune homme souffrant du dos.
Steven, vous avez 28 ans et vous, ça fait longtemps que vous avez des problèmes de dos.
Voilà, ça fait quelques années et pareil, c'est en faisant un faux mouvement et en portant une caisse.
Ouais, mais ça, il faut faire très attention quand on soulève ou quand on lâche une caisse.
Très bien, c'est parfait, merci du coup. Vous en avez d'autres comme ça?
Vous êtes vraiment resté un sale gosse, Thierry Lhermitte, hein? Incorrigible.
Ça, en fait. Vous pouvez pas la rater. Non, bah,
une passion aussi, il faut le dire, pour les vents. Ouais. Vous avez toujours votre machine à paix.
Oui. Alors je m'en suis un peu lassé, faut dire. Bon,
et les autres aussi, j'imagine.
Tour, on va dire. Ouais.
Plus sérieusement, la santé, la science, ce sont vraiment des sujets qui vous passionnent, Thierry Lhermitte. Ouais. Vous êtes d'ailleurs engagé depuis des années aux côtés de la Fondation pour la recherche médicale pour aider à faire connaître leurs projets de recherche auprès du grand public. Projets de recherche sur de nombreuses maladies. Vous auriez aimé animer un magazine de vulgarisation scientifique à la télévision?
Non, j'aurais pas aimé. Je suis très mauvais journaliste, très mauvais intervieweur. Je me débrouille à peu près pour répondre aux questions, mais pour les poser, je vous admire.
Mais vous faites des chroniques, par exemple, dans le magazine de la santé.
Oui, je fais des chroniques, mais que je prépare, etc. C'est pas interroger des gens. Faut avoir un autre talent, ça.
Allez, autre archive ou archifaux.
Thierry Lhermitte dans un film porno, ça existait ou pas? Archive ou archifaux?
Non, dans un vrai film porno, évidemment, non.
En fait, vous étiez retrouvé à votre insu dans un film porno, c'est ça?
Non, c'était à l'époque du début du porno. Là, il y avait un producteur qui avait trouvé ça marrant de faire un film dont le sujet était de filmer la salle, une salle qui étaient des comédiens, qui regardaient un film porno, donc pour dire des conneries à propos du film porno. Donc on assistait vraiment à un film porno, ils filmaient, et on disait des conneries en regardant le film porno. Et alors du coup, après, quand on est devenu connu, le mec, il a mis si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres, c'était le titre du film, avec nos têtes en gros, évidemment, comme
donc
si
tout
on
tout le monde s'est imaginé qu'il allait avoir des scènes chaudes avec vous. Quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Non,
évidemment, non. Bon, cela dit, Thierry Lhermitte, c'est pas la seule fois où vous êtes retrouvé dans une situation un peu louche. Il y a aussi eu ce tournage dans un club échangiste avec une dame manifestement très fan de vous. Hein.
Oui, oui, c'est exact. C'est dans le film de une affaire privée de Guillaume Niclou. On tournait effectivement dans une boîte échangiste avec des figurants qui étaient les clients habituels de cet établissement, qui étaient contents de venir gratuitement, puisqu'on payait la consommation et tout ça. Donc il y a une dame qui était en pleine action, qui me voit arriver, et tout en continuant son activité, me demande si je pourrais lui faire un petit autographe pour ses enfants. Voilà.
Elle arrive à faire plusieurs choses à la fois, cette dame.
Ouais, c'est une femme.
Vous imaginez s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, hein, la petite photo de Thierry Lhermitte dans le club échangiste, vous auriez eu des problèmes. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Thierry Lhermitte, on va maintenant partir là où vous n'avez eu ni réseaux sociaux, ni même de téléphone, dans le Vercors, pour parler de votre nouveau film Homme au bord de la crise de nerfs. A tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussart. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussart.
Bonjour messieurs. Si vous êtes là, c'est parce que vous allez mal. Mais surtout, c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. Voilà, c'est ici.
Enfin, y a rien là.
Laissez résonner le mot rien.
Y a même pas de réseau.
Quoi,
je vous assure que le monde peut fonctionner sans vous. C'est seulement 4 jours.
On en peut plus de vos trucs de pique-nique là, moi j'en peux plus, j'ai mal au ventre.
Y'a un loup. Putain, j'ai vu un loup. Y'a un loup derrière.
Bon alors Thierry Lhermitte, rassurez-nous, le loup derrière, vous ne l'avez pas vraiment vu.
Non mais il y en a plein, on tournait dans le Vercors, dans ce film, et dans lequel c'est vraiment le pays des loups, il y a plusieurs meutes assez importantes. On les a entendus, les loups.
Ah, oui,
quand on tournait la nuit, on les a entendus.
Notamment vraiment... quand vous étiez enterré dans le sol pendant 3 jours, vous étiez espérons qu'ils ne viennent pas nous voir.
Ouais, non, parce que pendant qu'on était enterré, il y avait une vache qui est devenue folle, là on avait vraiment les jetons. Là.
Vous avez craint le coup de sabot?
Ben ouais, bah oui, il a galopé autour de nos têtes enterré dans le sol. Là, ouais.
Alors, il peut aussi vous faire pipi dessus.
Oui, ou pire.
Vous avez pensé
bien, oui.
Ce qu'on appelle se retrouver dans la...
Oui.
Voilà. Alors, il n'y avait pas de loup, il y avait d'autres animaux, un serpent, une vache, avec laquelle vous êtes très bien entendu, paraît-il, Thierry.
Oui, un coq aussi.
Et bah oui, bah vous n'êtes pas très bien entendu avec lui, en revanche.
Non,
vous avez tordu le cou.
Oui.
Non, il a explosé avec une batte.
On n'a pas osé le manger.
Alors, dans le film, vous jouez Hippolyte, qui ne s'est pas remis de la disparition de sa femme. Il y a aussi Ramzi Bedia, qui a des soucis de libido. Laurent Stocker, Pascal Demolon, romancier en perdition. Max Bessette de Malguève, le junior de la troupe, souffre-douleur de ses camarades de classe. Ou encore Michael Gregorio, un masseur pas du tout zen.
Un mot enfin de François-Xavier de Maison. Alors lui, c'est un gros dossier. Il a deux problèmes. Un problème de couple avec son mari, mais aussi un petit problème de constipation.
Ah oui, oui, bah oui, dans la nature, il peut pas. Donc il est coincé. Et puis tout ça sous la direction, on va dire, dans le film en tout cas, de Marina Hans, de la Comédie Française.
Elle aussi, il faut préciser, voilà. Qui joue votre coach.
Voilà, donc en gros, on est sept, c'est Blanche-Neige et les sept nains un peu.
C'est ça.
Donc on est sept mecs complètement déprimés qui partent faire ce stage, certains de bon gré parce que c'est ça qu'ils recherchent, et puis d'autres qui se sont fait embarquer. Moi, en l'occurrence, c'est ma fille qui m'a expliqué qu'il fallait que j'aille faire ça.
Ouais, vous êtes fait arnaquer.
Voilà. Et on est plusieurs à découvrir qu'on est un stage de survie et on déteste ça.
Se retrouver à un moment de sa vie sur une pente glissante, ça peut arriver à n'importe qui. Hein.
Mm-hmm.
Vous aussi, vous avez parfois été au bord de la crise de nerfs lors de votre carrière.
Ça m'est arrivé.
Il y a eu des moments d'angoisse
de burn-out, ça m'est arrivé. Ouais.
À quelle époque L'époque où vous tourniez beaucoup trop?
Non, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais en tournée, il y a quelques années. Ouais. Je ne pouvais plus, je devenais dingue, ouais. Ouais, mais ça va mieux depuis. Ouais.
L'envie à ce moment-là, vous avez quitté, commencé à vous quitter?
Non, pas vraiment. Non. J'ai pris des bons médicaments, j'ai parlé à qui il fallait, voilà, puis ça s'est calmé. Surtout quand j'ai trouvé le bon médicament, ça a été très très vite. L'effet était clair et net en quelques jours, ouais.
Ce qui est terrible avec le burn-out, on en a parlé notamment avec Muriel Robin, ici même, c'est qu'on ne le voit pas venir en fait. Ça s'installe très vite.
Je ne sais pas, ça doit être une accumulation. Franchement, personne ne sait trop comment... C'est la goutte qui fait déborder le vase, donc il y a eu plein de gouttes avant, et puis un jour ça déborde, voilà, ce serait plutôt ça quoi.
Sur des plateaux de télé aussi, vous êtes parfois senti au bord de la crise de nerfs, tellement vous trouviez ça nul.
Il y a une époque où ça m'angoissait, oui, parce que j'avais peur qu'on me mette dans le même sac. Mais maintenant, aujourd'hui, je m'en fous complètement et ça a plutôt tendance à me faire rire même.
Qu'est-ce que vous voulez dire par mettre dans le même sac?
Bah, si vous êtes dans une émission à la con dans laquelle les gens disent que des bêtises et que vous vous sentez happé par ce truc-là, d'abord à se mettre à dire des bêtises, qui peut arriver facilement, mais surtout que vous croyez que les gens vont avoir le même jugement sur vous qu'on vous associe au contenu.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Bon, à l'époque, ça m'angoissait un peu, puis aujourd'hui, je suis, ça me fait plutôt rire même.
Et ouais. Vous faites un peu plus attention peut-être aussi aux émissions que vous faites aujourd'hui?
Oui, éventuellement, mais surtout, je m'en fous complètement, donc ça me permet d'avoir un regard amusé sur ce que j'observe, quoi, voilà.
Dans ces cas-là, vous connaissant, vous allez à fond dans l'absurdité, vous jouez de la situation.
Oui, oui, ça me dérange pas du tout, voilà.
Vous poussez presque les autres à la faute, je suis sûr.
Oui, ça peut m'arriver, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord.
Homme au bord de la crise de nerfs, c'est à voir mercredi prochain au cinéma. On va en profiter pour faire une petite interview crise de nerfs, mm-hmm. qui va peut-être vous donner envie de dire comme Alain Finkielkraut.
Non, laissez-le.
Vous voyez, il a besoin d'un petit stage dans le Vercors, lui. Hein.
Ah oui, oui,
non,
oui.
Ça vient de la gorge.
Ah oui, il faut qu'il aille voir Marina.
Au plus vite. Ouais. Hein. Thierry Lhermitte, est-ce que ça vous met au bord de la crise de nerfs qu'on vous demande sans cesse en interview s'il y aura un Bronzé 4?
Ça me saoule un peu, oui. Il faut le dire, oui.
Alors, je vais me permettre de vous poser la question et de vous saouler un peu plus.
Non, je pense qu'il n'y aura pas de Bronzé 4. Non, j'espère qu'il y en aura un film avec tous ensemble, un autre film, un dernier film, j'en sais rien. Mais Bronzé 4, c'est sûr que non.
Ça a été définitivement abandonné, cette idée notamment de vous voir dans un hospice, c'était ce à quoi avait réfléchi Patrice Lecomte?
Non, c'est pas inenvisageable, mais pas les Bronzés, pas ces personnages-là. On en a fait le tour, ça va, c'est bien.
Voilà. Après le 3, vous vous dites, c'est OK?
C'est très difficile d'écrire à 7 quand on a tous des activités différentes, quand on avait que ça à faire, c'était super, voilà. Donc ça se reproduira pas, mais surtout on a plein d'autres bêtises à raconter en dehors des Bronzés, ouais.
10 millions d'entrées hein, pour les Bronzés 3, des critiques parfois assez virulentes, comment vous les avez reçues vous?
Alors moi je les ai pas lues, mais il y en a qui ont été blessés par ça. Alors moi, c'est franchement, déjà quand on fait 10 millions, les critiques, formidable, allez-y, il n'y a aucun souci. Et puis, les mauvaises critiques, on les a eues pour les deux premiers Bronzés, pour le Père Noël, tout ça, les mauvaises critiques, il n'y a aucun souci.
De toute façon, il y avait quelque chose d'inéluctable à ce qu'une partie du public soit déçue, étant donné que vous êtes tellement devenus des totems, en fait.
On n'est jamais à la hauteur d'un fantasme. Donc, il y avait plein de gens qui avaient un fantasme à propos de ce qu'auraient dû être les Bronzés 3. Donc, on avait failli même appeler ça, c'était mieux avant.
Ah bah remarquez, vous leur auriez coupé l'herbe sous le pied là.
Oui, mais il ne faut pas non plus donner les bâtons. Il ne faut pas exagérer non plus.
Laurent Baffie peut en parler.
Oui,
les têtes bagnoles n'y allaient pas, ce film est une merde.
Voilà, il ne faut pas. Non.
Personne
n'y
allait.
Et les gens n'y sont pas allés. Voilà. En effet.
Les questions trop personnelles à la télé, on dit que ça vous tape un peu sur les nerfs.
Oui, pareil, il y a une époque où je me sentais obligé de répondre, ou de ne pas répondre, enfin, en tout cas, de rentrer dans la problématique de la question. Aujourd'hui, je m'en fous, j'esquive, je rigole, ou je dis n'importe quoi, et tout va bien, donc ça ne me tape plus sur les nerfs.
L'idée de préserver votre vie privée, ça va assez loin, Thierry Lhermitte, même aux enfants de la télé où les invités doivent fournir une photo d'eux-mêmes quand ils sont tout petits. Vous leur avez donné une photo de n'importe quel bébé trouvé sur Internet.
Oui, absolument. Absolument. Ça m'avait fait rigoler. Ouais.
Et vous avez une arme redoutable dès que les questions deviennent un peu trop personnelles. Vous vous mettez à raconter absolument n'importe quoi. Ouais. Je vous cite, je donne des réponses à la con que je ne dément jamais.
Absolument.
C'est exact. Il ne faut pas démentir. En fait.
Non. Vous pouvez mentir. Là, voilà. Allez, alors, je vais vous faire une confidence. L'autre truc qui me gonfle, vous n'avez peut-être pas posé la question, c'est quand on me demande une anecdote sur le film. Là. Et là, j'ai un truc d'enfer.
Vous faites quoi?
Et je me mets à raconter une anecdote sans aucun intérêt et interminable.
Jean-Michel sans chute.
Exactement. Interminable, où on ne peut plus m'arrêter. Là, il y a la panique dans l'œil de la personne qui m'a posé la question.
L'animateur qui brinde.
Il dit, mais coupe. Et je relance. Je dis, mais et à ce moment-là, est arrivé un mec en vélo. Merde, c'est un grand mec, tout maigre, avec un truc de vélo, mais de la Lyonnaise des Eaux, ou je ne sais pas quoi, etc. Le mec passe devant. Mais sans s'arrêter, carrément, sans s'arrêter. Et moi, je me retrouve là. Et là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Voilà.
Et là, vous voyez l'animateur qui a les yeux comme des soucoupes.
Comme ça, qui ne sait pas, qui dit « Ah, j'aurais jamais dû lui poser cette question.
Je pourrais jamais le couper. »
Voilà.
Thierry Lhermitte, on va maintenant passer à ce qui vous met au bord de la crise de nerfs en tant que téléspectateur cette fois. Et vous nous avez d'abord cité le ton qu'emploient les journalistes dans les magazines d'infos. Expliquez-nous.
J'arrive pas à le faire. Mais vous voyez, ce ton, ça a commencé avec Capital. Sur M6.
Ah oui.
Je sais pas le faire. Hein,
c'est un ton un peu descendant.
Un peu descendant. Voilà, ta. Bah, ta, 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 ta. Mais personne ne parle comme ça. Oui, et c'est devenu vrai. La mode.
Et tant mieux, heureusement.
Ben bah ouais, mais c'est vraiment bizarre. Hein. Oui, et c'est devenu vrai. La mode dans presque tous les reportages à la télévision. Sauf sur France 2. Sur France 2. Non, alors elle est très différente. Et je pense qu'elle vient ou de Clermont, ou de Saint-Étienne. Elle fait tout l'air. Elle termine tout comme ça.
C'est qui?
Je sais pas. C'est une dame. Il n'y a pas son nom. Mais alors, elle termine tous les reportages comme ça. Et c'est incroyable.
C'est pas Anne-Sophie Lapix.
Non, on la voit jamais.
Ça fait des sujets.
Les commentaires.
Eh oui, c'est la voix.
Les commentaires. Oh. Ouais.
Voilà. On va essayer de l'identifier.
Alors, vous aviez notamment cité en exemple l'émission Enquête exclusive, ouais. Où on voit justement parfois de jolies crises de nerfs.
À Grenoble, la famille du principal suspect est réputée très difficile.
Je crois que c'est déjà fait, encore une cliente pour Marina Hans. Le ton robotique des journalistes, ça vous énerve, mais alors c'est rien, Thierry Lhermitte, comparé au générique d'une série télé des années 80, qui était un peu une sorte de Dallas à la française et qui s'appelait...
À Château Vallon.
Le générique interprété par Herbert Léonard.
Ouais.
Thierry, c'est cadeau.
Puissance et gloire, dans le trouble d'un regard.
Alors là... Il y a une question de sémantique très importante.
Ouais.
Puissance et gloire.
Oui.
Dans l'eau trouble d'un regard, c'est ça que j'entends.
Oui.
Oui.
Et on m'a fait remarquer récemment que c'était plutôt dans le trouble d'un regard.
Ah, c'est peut-être le trouble.
Ah, oui.
J'ai pas le 06 d'Herbert Léonard, on va pas l'appeler.
Non, mais alors, comme il dit, on entend l'eau trouble.
L'eau trouble d'un regard, tu vois.
Et alors, on se dit, c'est de la poésie.
Oui.
De toute façon, toujours avec Herbert.
Eh oui, alors que ça tiendrait plus debout si c'était dans le trouble d'un regard.
C'est
bon,
vrai.
Ah, il y a des discussions.
Et ça, vous en pouviez plus de ce générique. Hein.
Bah, je l'ai mis comme
sonnerie de votre téléphone.
Sonnerie de téléphone.
C'est pas très malin, vous êtes tiré une balle dans le pied parce que vous l'entendiez beaucoup.
Ouais, mais c'est assez rigolo de l'entendre résonner comme
c'est
ça
un peu
au milieu de
conversation.
Ouais.
Musique de Vladimir Kosma quand même.
Ah ouais, il en a fait beaucoup. Hein.
Voilà. Ouais. Une petite pause et on accueille Germain Sasse pour l'info télé de la semaine. Juste le temps de se refaire un peu d'Herbert Léonard.
Ah bah oui.
Écoutez bien.
Ah bah non, il ne le dira pas. C'était juste pour le plaisir. Chanson d'Herbert Léonard aussi.
Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
On refait l'actu télé.
Bon, normalement, on aurait dû mettre un petit jingle instantané RTL pour les infos urgentes parce qu'on vient de récupérer l'info au sujet de Herbert Léonard et de sa chanson Thierry Lhermitte. Donc c'est bien dans l'eau trouble d'un regard.
Ah bah, voilà. C'est encore plus beau que je pensais.
Ça vous interroge encore plus.
C'est donc de la poésie. Ouais.
Ne nous chauffez pas trop parce que sinon on pourrait le réécouter avant la fin de l'émission. Je vous préviens tout de suite. Hein. On accueille Germain Sasse. Bonjour Germain.
Bonjour Éric et Jade. Bonjour Thierry. Bonjour à tous.
Bonjour. Germain est la probité absolue. Ouais. Thierry Lhermitte, tout l'inverse de Jade, qui elle est un peu comme vous, elle aime beaucoup mentir. Donc ça peut être l'arroseur arrosé. Attention, elle va vous donner des infos télé, mais aussi parfois des intox. Vous nous dites juste si vous y croyez ou pas, et ensuite Germain Sastre délivrera lui la vérité dans l'eau trouble de son regard.
Votre amie Josiane Balasco sera la prochaine invitée de l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Vous y croyez ou pas?
Oui, j'y crois.
Eh bien, c'est faux.
Ah voilà,
désolé Thierry, il s'agit en fait de Jari. L'humoriste s'est envolé pour le Groenland avec Raphaël de Casabianca. Ensemble, ils vont aller à la rencontre des Inuits. Une expérience exceptionnelle à laquelle Jari rêvait de participer. Il nous l'avait d'ailleurs confié dans Orphée la télé en septembre dernier.
C'est vrai que j'ai décidé de lever le pied sur toutes les émissions. On m'envoie en l'air, on me fait faire les quatre trucs.
Vous avez assez donné pour ce qui est des émissions où on vous met à l'épreuve.
Oui, voilà. La seule émission que j'adorerais faire, j'ai le droit de le dire ou pas?
Bien sûr.
Et comment?
J'adorerais faire Rendez-vous en Terre Inconnue, parce que ça a du sens. Moi, j'aime beaucoup les gens et voilà, je me dis, est-ce que je serais capable de dormir en milieu de chèvres ou ce genre de choses?
Jade, vous connaissez le principe, signé, payé, on va encore prendre 10% sur
voilà,
ce contrat.
Voilà.
Super.
Alors, Jari. Qu'est-ce qu'on s'est fait comme argent,
c'est vrai, hein.
Bah, ça n'a pas vu, hein. Ouais.
Alors, Jari, dans Rendez-vous en Terre Inconnue à découvrir dans quelques mois. Avant lui, ce sera le rappeur Oli qui partira à l'autre bout du monde sans son frère Big Flo.
Pourquoi?
Rendez-vous. Eh bien, parce que, tout simplement, je crois que ça ne lui plaisait pas.
Il est resté Oli, vous voulez dire?
Peur, peut-être. Il est resté Oli, ce serait joli, ça. C'est un très joli genou.
Allez, autre info à vérifier.
La cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, diffusée sur France 2, a fait plus d'audience que N'oubliez pas les paroles, le jeu de Nagui, habituellement diffusé à la même heure. Thierry Lhermitte y croit ou pas?
Oui, pourquoi pas?
Oui.
Non, désolé.
Ça ne va pas du tout, vous allez vous prendre un Herbert Léonard dans la tête.
Oui, ça fait deux fois. Prépare Herbert. Hein.
Un peu plus de 1 700 000 téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture de cette 75e édition mardi dernier, là où le jeu de Nagui réunissait 1 million de téléspectateurs de plus le mardi précédent. Alors pour autant, ça reste quand même une très bonne audience pour cette cérémonie présentée cette année par Virginie Efira. C'est même la meilleure depuis 2011. C'est par exemple 5 fois plus de téléspectateurs que pour le lancement du festival en 2019 sur Canal+.
Thierry Lhermitte, le festival de Cannes, vous y êtes allé déjà plusieurs fois. La montée des marches, cette effervescence cannoise, les soirées, les tapis rouges, les photographes, c'est quelque chose qui vous plaît ou pas ?
À titre personnel, moi j'y suis allé très très peu. Je suis allé quand j'étais producteur parce que j'avais des trucs à faire, et c'est tout. Sinon, j'y suis jamais allé par ailleurs. Et honnêtement, quand j'ai vu les participants du Loft à l'époque monter les marches, là, je pensais que ça avait pris un tournant triste. Voilà.
C'était un peu moins prestigieux.
Bah, c'est-à-dire, c'était le bûcher des vanités, quoi. C'est-à-dire, c'est dingue de un truc qui est supposé être le cinéma mondial, d'avoir que de la célébrité à la con qui monte les marches. C'est un peu triste, voilà.
Ils sont bien rattrapés cette année avec notamment Tom Cruise qui était sur la croisette cette semaine. Le monde du cinéma fait la fête alors que les cinémas, eux, ne sont pas à la fête. Jamais la fréquentation des salles n'a été aussi basse. Ça vous inquiète ?
Bah oui, oui. Il y a un changement de consommation. C'est sûr que les plateformes ont changé la vie, que le confinement a fait qu'on a trouvé ça formidable, les plateformes. Et voilà, donc, entre ça, les masques, le pass sanitaire pour aller au cinéma, c'est sûr que les habitudes se perdent. J'en suis pas devin, j'en sais rien. Est-ce que ça va revenir ou pas? J'en sais rien. Voilà. Mais c'est inquiétant, oui.
Dernière info ou dernière intox?
L'excellente série Baron Noir avec Kad Merad devrait avoir une 4e saison. Thierry Lhermitte, vous y croyez?
Ah non, ça c'est fou alors.
Mais non. c'est parce qu'il a envie de réécouter.
Eh oui.
C'est vrai, la fiction politique à succès diffusée sur Canal+, entre 2016 et 2020, devait s'arrêter à l'issue de la saison 3, mais Philippe Rigvert, le personnage principal incarné par Kad Merad, pourrait bien revenir à la télé pour une 4e saison. C'est le comédien en personne qui l'a annoncé dans l'émission Click. Selon lui, le créateur de la série serait en train de réfléchir à une suite.
Thierry Lhermitte, votre score, nul.
Oui, nul.
Nul. Vous savez ce que vous méritez?
Oui.
La sentence est irrévocable. Merci beaucoup, Germain Sass.
Je suis content d'être venu.
Dans un instant, Thierry Lhermitte, on va encore parler avec lui d'Herbert Léonard. Je crois que c'est un peu le fil rouge de cette émission. A tout de suite.
Autour de Château-Vallon.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard.
Thierry Lhermitte, ça suffit, hein? C'est nous qui sommes au bord de la crise de nerfs.
Ah, merci.
Il nous réclame.
Il a même passé derrière la console, tenté de remplacer notre réalisatrice pour balancer Herbert Léonard.
En plus, ça me fout un coup au cœur à chaque fois parce que j'ai l'impression que c'est mon téléphone qui sonne.
Ah bah oui, puisque c'était votre sonnerie.
On le rappelle.
On est ensemble jusqu'à 12h30, pas seulement pour parler d'Herbert Léonard avec Thierry Lhermitte, mais aussi de télévision et de cinéma. On se retrouve dans 2 minutes, juste après les infos. RTL, il est midi.
Merci Sébastien. Jusqu'à 12h30, on refait la télé avec Thierry Lhermitte, un homme au bord de la crise de nerfs, mercredi prochain au cinéma.
Fromage ou dessert?
Vous avez bien mangé pendant ces 2 mois de tournage dans le Vercors ou pas?
Très bien.
Désolé, chez nous, le menu sera très limité.
Oui, c'est fromage ou dessert, bien. Alors qu'il est. Vous avez 2 enveloppes qu'Eric est en train de vous donner.
Oui, j'ai l'impression d'être une hôtesse dans un jeu télé.
Oui, tout à fait. Eric a donné les enveloppes. Bien. Il faut en choisir une, évidemment. La lire.
Je vais choisir.
C'est une question à l'intérieur.
Mais il n'y a pas d'aliments dans les enveloppes.
Je vais prendre le fromage, parce que
vous êtes plus
membre
fromage.
De la confrérie des chevaliers de Saint-Nectaire.
C'est vrai. Donc il y a une certaine logique.
Voilà. Alors, je lis, dans la vraie vie, niveau caractère, vous êtes plutôt comme Popeye des bronzés ou comme Hippolyte dans Homme au bord de la crise de nerfs.
En clair, vous êtes toujours de bonne humeur ou parfois un peu bougon?
Non, je peux être bougon, oui. Ouais, je peux.
Vous l'avouez?
Oui, je peux être bougon.
Vous aviez dit un jour, on s'imagine que je suis un mec hilarant dans la vie, mais non.
Non, pas toujours, non. Non. Je suis facilement. Énervé. Mais je suis très poli. Donc
vous avez l'énervement?
Pas toujours.
Poli.
Voilà. Oui, c'est très rare. Je me suis très rarement mis en colère, la grosse colère extériorisée. Très rarement.
Ça arrive que des gens se montrent un peu trop familiers avec vous dans la rue en se disant « Tiens, oh, lui, c'est un rigolo, je peux lui taper sur l'épaule. »
Ça m'arrive fréquemment, oui. Ouais.
Ah, vous réagissez comment ?
Bah, quand j'ai le temps, ça va. Bah, machin. Quand je suis avec des paquets dans les bras, en train d'essayer de faire le code avec le téléphone qui sonne en même temps, je peux être désagréable. Ça peut m'arriver.
Et après, sur les réseaux sociaux, ça donne « Thierry Lhermitte est désagréable ».
Oui, c'est la vie.
Vous qui aimez raconter absolument n'importe quoi, ouais. Je suis sûr, Thierry Lhermitte, qu'une fois, vous avez déjà dit à quelqu'un dans la rue que vous n'étiez pas Thierry Lhermitte, mais son sosie.
Oui, son père, je dis. Oui, ça m'arrive souvent.
Vous le pratiquez régulièrement,
oui,
ça.
Oui, quand on me dit, mais vous êtes pas Thierry Lhermitte. Non, je suis son père. Thierry Lhermitte est jeune.
En parlant de gens que l'on croise, ça a dû vous faciliter la vie quand même, la fin de l'obligation de porter le masque, hein, parce que déjà que vous n'êtes pas physionomiste, Thierry Lhermitte, pendant 2 ans, vous n'avez reconnu absolument personne, j'imagine.
Oui, absolument. Et le masque, ça m'arrangeait, ça donnait une bonne raison de dire...
C'est une excuse.
Dire, bah ouais, avec le masque, tu sais... Ouais.
Je t'ai pas reconnu.
Alors que même sans,
j'ai du mal, ouais, c'est la vie.
Jusqu'à parfois ne pas reconnaître d'autres invités dans les coulisses d'une émission télé, par exemple, ça, vous l'avez déjà vécu ?
Oh là là, fréquemment, oui. Ouais, terrible. Des acteurs à qui j'ai tourné, à qui je me présente.
Ils le prennent pas trop mal, ceux que vous reconnaissez pas ? Non, ils vous connaissent maintenant, eux.
Oui, ils peuvent éventuellement mal le prendre, ouais.
On marque une petite pause et on retrouve dans un instant Thierry Lhermitte. On va vous emmener dans les coulisses de la série événement du moment sur TF1, ça s'appelle HPI. Et puis vous allez nous dire ce que vous allez regarder à la télé dans les prochains jours. A tout de suite.
Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Mais le problème que je connais pas, c'est les marques des poissons et tout. Donc si c'est des poissons différents, je connais pas les marques, mais ils ont tous le même goût.
C'est des fruits de mer, ça va être moule, huître, crabe. Thierry Lhermitte.
Ah ouais.
Des trucs comme ça.
Mais Thierry Lhermitte, j'ai jamais goûté par contre. Je connais les moules, les huîtres, je connais. Plein de choses, mais pas le Thierry Lhermitte, quoi.
Ça, c'était dans les Marseillais de W9, une télé-réalité. Ça vous arrive parfois à l'inverse, qu'on vous appelle Bernard Lhermitte ?
Depuis l'école, on m'a appelé Bernard Lhermitte, oui.
En même temps, il y a une certaine logique, hein, sachant que l'une de vos premières pièces, c'était Amour, coquillage et crustacés.
Exact, avec Bernard Lhermitte, ça aurait été chouette. Oui, c'est vrai.
Ça aurait été raccord. Thierry, on va vous transformer en Bernard Lhermitte. On vous enferme dans votre coquille, chez vous, et on vous met devant la télé. À vous de faire le programme.
Le plateau télé de l'invité.
Ce soir, Thierry, on vous propose Columbo sur TMC ou alors sur TF1, la grande finale de The Voice en direct avec de nombreux artistes pour chanter avec les finalistes ce soir. Slimane, Mika, Christophe Willem ou encore Angèle. Qu'est-ce que vous regardez ?
Je regarderai TF1, je crois. Ouais.
The Voice ?
Oui.
Ouais. Marre de Columbo ?
C'est en première diffusion, pourtant.
Voilà, c'est
oui,
ça le problème.
Vous connaissez
de
la fin, peut-être.
J'en ai déjà vu, peut-être un truc nouveau, comme The Voice, ouais, mm-hmm. Je suis d'accord.
Columbo, ça nous amène naturellement à parler d'un autre inspecteur vintage. Personne n'a oublié la promesse que vous aviez faite dans cette émission, ici même, ce studio, Thierry Lhermitte, celle de faire revivre l'inspecteur Derrick au cinéma. Ça en est où ? Ce projet a disparu avec le Covid ?
Non, le scénario a été écrit et on a un peu de mal à le faire financer.
Tout est écrit, là, ça y est.
Tout est écrit, un scénario complet. J'ai bon espoir, néanmoins, que ça se fasse un jour, parce que c'est super drôle.
Quand on en avait parlé, on s'était dit, comment ça peut tenir sur 1h30 ?
Ah, parce qu'il vient en France et rencontre le commissaire Maigret.
C'est un crossover ?
Qui serait joué par Lucien Jean-Baptiste, très bon acteur, mais Derrick est étonné de voir que le commissaire Maigret est un homme de couleur.
Qui pour incarner Derrick ?
Il y avait plein d'acteurs qui étaient pressentis, et puis le metteur en scène...
Il y avait eu du Chabat, non ?
Oui, Alain Chabat serait formidable. Et puis, le metteur en scène qui devait, ou qui fera peut-être Derrick, vous voulez que ce soit moi ?
Donc ce serait vous, maintenant, on
possiblement,
peut dire, si le film se fait...
Ou peut-être un autre acteur, moi j'y vais même pas penser à le jouer. Mais bon, voilà, c'est...
Mais on souhaiterait que ce soit vous.
C'est possible aussi, mais je vous dis, on a du mal à le financer. Si ça devait être un autre acteur pour que le film se fasse, ça serait absolument volontiers que je laisserais ce rôle.
Pourquoi il n'y croit pas, côté finance ?
Écoutez... J'ai pas réussi à savoir, pour tout vous dire. Mais alors, est-ce que ça fait vieux ? Est-ce que faut des acteurs plus jeunes ? Alors, en même temps, c'est pas possible de mettre un jeune dans Derrick. Hein.
Cela dit, si ça met 10 ans à sortir, ce sera dans l'esprit de Derrick, très lent.
Oui, voilà, exactement. C'était une lente maturation. Voilà. Il y avait Josiane Balasco qui devait jouer Angela Merkel. Isabelle Nanty qui faisait Madame Maigret, tout ça, il y a un gros casting.
Casting, ça apporte un film aussi. Côté finance, ça devrait les rassurer.
Et Michel Blanc devait faire une ex-nageuse d'Europe de l'Est.
Sur une échelle de probabilité, allez, qui va de 1 à 10, vous pensez combien de chances que ça se fasse pour finir ce film?
J'espère la moitié, ouais. 5 sur 10. Ouais.
On en reparle la prochaine fois.
Absolument. J'espère que je viendrai pour la sortie d'Éric.
Bah, attendez, j'espère que nous, on sera partenaires.
C'est né ici.
C'est né ici, hein, on vous rappelle.
Ouais, allez, autre choix sur votre plateau télé, Thierry Lhermitte.
Lundi à 17h45, vous seriez plutôt devant Question pour un champion ou un dîner presque parfait sur W9?
Non, je crois que je vais faire Question pour un champion. Ça,
je suis sûr que vous êtes nostalgique de l'époque Julien Lepers dans Question pour un champion.
Ah oui.
Parce que Samuel Etienne, il est très bien.
Ah bah oui.
Ouais, ouais, mais c'est pas la même chose. Pas le ton particulier de Julien Lepers. Mais là où je le préférais, c'était quand il présentait les Miss.
C'est vrai qu'il a fait ça dans les années 90.
Ah ouais, c'était le 31 décembre. Le 30 ou le 31 décembre.
Commençait le 30 et ça finissait le 31. Parce que c'était très long déjà.
C'est avant Jean-Pierre Foucault.
Oui, avant l'arrivée sur TF1 en fait.
Ah ouais.
Ben oui, c'était. Alors du coup, le niveau des prix était moins élevé à cette époque-là, et c'était sur FR3, je crois.
C'est ça.
Donc, les dauphines gagnaient des mixeurs, des robots, voilà. Une semaine aux Arzis Palace en Tunisie et tout, c'était très plaisant.
Et Julien Lepers qui était en sur-régime, surexcité.
Exactement, avec un suspense absolument incroyable et tout. Donc, vraiment, ça me faisait rire.
Allez, dernier choix de programme.
Alors, nouveauté à la télé lundi soir, Cyril Lignac va ouvrir à 18h40 sur M6 son Académie des gâteaux. C'est une formation intensive pour 24 pâtissiers amateurs. Est-ce que ça vous dit ça, Thierry? Ou alors vous préférez regarder à la même heure un match à Roland-Garros sur France 2, évidemment?
Je regardais le tennis plutôt à ce moment-là. Oui. Mais dans les émissions hallucinantes, je suis tombé par hasard sur Marié au premier regard.
Marié au premier regard, diffusé sur M6.
Alors là,
et vous qui aimez la science, ça a dû vous plaire, puisqu'il s'agit de marier des gens qui ne se sont jamais vus sur la base de critères scientifiques.
Exactement, c'est super scientifique. Là, vraiment, il y a des gens qui matchent à 86%, mais c'est vraiment exceptionnel. Mais je suis scié. Parce qu'ils vont se marier pour de vrai.
Ah bah bien sûr.
C'est un vrai mariage. Après, mais c'est dingue. Ouais. Franchement, c'est dingue.
Et ça vous a sidéré.
Ah oui. Ah là, ça m'a.
Ouais. Et ça vous a accroché d'ailleurs.
Ah j'étais scié quoi. Bah, non mais faut être dingue pour aller là-dedans. c'est incroyable. Bon en même temps, franchement, il y avait des gamins, il y en avait un qui était super émouvant là quand on lui. Ils attendaient qu'on trouve son match, hein, ouais. Son partenaire, et donc la caméra était là au moment où on l'appelle. Pour lui dire, ça y est, on a trouvé ton match. Et alors, le mec, il fond en larmes. Et après, la caméra était encore là quand il annonce. Il a une grande fille de 17 ans, le gars. Et donc, il annonce à sa fille qu'il va se marier. Et la gamine, elle extra, il dit, mais tu déconnes? Tu l'as jamais vu? Il dit, non,
mais
elle est 83. Non, mais attends, tu l'as jamais vu? C'est vraiment extra.
Pour revenir à l'Académie des gâteaux, on espère qu'ils apprendront à faire le meilleur gâteau du monde. Celui, bien sûr, que vous aviez eu la chance de déguster dans Le Père Noël est une ordure.
Ah oui, ah c'est très bon.
Ah oui. Et puis, ça n'est que des bonnes choses. Hein. C'est des cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim.
C'est une fabrication artisanale.
Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi.
Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Nous, on s'en lasse pas, mais vous, Thierry Lhermitte, vous n'avez pas marre un peu parfois que des gens vous sortent dans la rue les répliques cultes, que ce soit du Père Noël ou des bronzés?
Non, c'est très gentil, il n'y a pas de mal. Et j'avais vu une belle recette aussi, là, sur Internet, il n'y a pas longtemps, c'est les souchtis. C'est les sushis du Nord.
Alors, c'est quoi donc?
Oui, et c'est présenté par Jean-Philippe Janssen et Kelly Duchuc, qui est une influenceuse du Nord. Je vous recommande d'aller voir ça.
Et c'est quoi?
C'est sur les réseaux alors?
Oui, c'est sur les réseaux, le sushti.
D'accord. Et c'est quoi un sushti?
C'est à base de maroilles et de moules. Et de mayonnaise.
Bah, c'est très doubichou, hein.
C'est très plaisant, je vous dis. Oui. Faut aller voir sur Internet.
Très bien.
Vous regardez parfois Le Père Noël est une ordure quand il repasse à la télé, c'est-à-dire tous les ans?
Non, j'ai autre chose à faire que de regarder. J'ai beaucoup de trucs en retard, de films, de livres, de toutes choses que de regarder.
Le savez quand ça repasse, parce qu'on vous en reparle le lendemain.
On m'en parle, et puis je le vois comme ça passer, mais non.
À chaque fois, c'est un carton.
Ça m'arrive de regarder quelques minutes comme ça, ça me fait marrer d'ailleurs, mais non, je regarde pas.
3,5 millions de téléspectateurs. Encore en décembre dernier, c'est-à-dire que les gens ne s'en lassent pas.
Oui, c'est dingue, hein, mais bon, ça doit être un truc qui se regarde. Je suis sûr que c'est un truc que les gens aiment regarder ensemble.
Quoi. En famille, bien sûr.
Ouais, ouvrir des répliques devant la télé. Ouais.
Voilà, amis, et puis famille, découvrir des trucs qu'on n'avait pas vus, parce que c'est ça qui est chouette, quand on écrit beaucoup de bêtises, on ne peut pas tout percevoir la première fois, ni à la deuxième, et puis on en découvre encore à la dixième, des trucs qu'on n'avait pas vus. Ouais.
On va maintenant parler de celle qui est aussi une championne des audiences à la télé.
Oui, c'est Audrey Fleurot, l'héroïne de la série HPI sur TF1. Vous l'avez déjà regardée, Thierry ?
Non, j'en ai entendu que du bien, mais je ne l'ai jamais vue.
Oui,
non.
En effet. La deuxième saison vient de commencer et on va vous emmener dans les coulisses de cette série événement avec notre décodeur Télé-Loisirs. Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Jade, bonjour à tous.
Bonjour Rémi.
Alors des chiffres d'audience à faire tourner la tête hein, pour le lancement de cette nouvelle saison.
Exactement, des chiffres vraiment spectaculaires. Je vais vous en citer qu'un seul hein, pour bien se rendre compte. C'est l'audience du premier épisode qui a été diffusé jeudi 12 mai. Et tenez-vous bien, 9,2 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour le lancement de cette saison 2. Hein. C'est énorme, ce sont des scores qu'on voyait il y a une quinzaine d'années à la télévision mais qui sont devenus extrêmement rares aujourd'hui. Hein. C'est évidemment une affaire en or hein, pour TF1 qui facture environ 150 000 euros le spot de pub diffusé pendant le programme. Rien que ça, une série donc phénomène emmenée, portée par la comédienne Audrey Fleurot avec un pitch, hein, comme on dit, très original. Hein. Ça raconte, vous le savez, l'histoire de Morgane. Morgane, une femme de ménage à haut potentiel intellectuel, une HPI comme on dit. Et cette mère de famille d'une petite quarantaine d'années va voir son quotidien totalement chamboulé le jour où la police de Lille, séduite par ses capacités hors normes, va lui proposer un poste de consultante.
Alors je crois savoir que le rythme des tournages est très intense.
Absolument, au total le tournage d'un épisode prend seulement une dizaine de jours, c'est très très peu hein, par rapport aux cadences, au rythme du cinéma notamment, et ça lui fait donc de très très grosses journées Audrey Fleurot, d'autant qu'elle est dans quasiment toutes les scènes avec au menu chaque matin pour elle une heure de maquillage et d'habillage pour rentrer dans son personnage de Lilloise totalement fantasque. Et pour la petite histoire, sachez que les deux derniers épisodes de cette saison 2 sont réalisés par Djibril Glissant, hein, qui n'est autre que le compagnon d'Audrey Fleurot. Tous ces épisodes sont donc à retrouver en ce moment le jeudi soir et c'est, on le rappelle, en prime sur TF1.
Merci beaucoup Rémi Jacob. À noter une petite baisse de régime quand même hein, pour l'épisode diffusé jeudi. Ils n'ont fait que 8 millions de téléspectateurs. Oh là là, ça devient inquiétant.
Oui.
Vous aviez un petit côté aussi HPI, un peu geek à vos débuts à la télévision, Thierry Lhermitte, notamment lors de votre première télé. On va la réécouter dans un instant.
Aïe aïe aïe.
Bah ouais, vous avez raison de dire aïe aïe aïe. Ça arrive juste après ça, à tout de suite.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard.
On passe maintenant à la partie littéraire. L'intéressant de ce truc, c'est que ce soit une critique littéraire faite par les jeunes et d'un bouquin qui a été le plus cité dans une enquête de l'IFOP, selon laquelle les jeunes donc avaient lu ce bouquin pendant le dernier mois.
C'est cela, oui, oui.
Oui, oui. Bah, oui. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas journaliste.
Première télé, voilà. En même temps, vous étiez tout jeune, vous aviez quoi, 16 ans ?
16 ans, oui.
Ah, bon, la voix de l'ado, là.
Super stressé, là, ouais.
Alors, pas de crise de nerfs, de panique avant que cette première fois, justement ?
Je m'en souviens plus. Pour tout vous dire, j'avais oublié jusqu'à ce qu'on me le ressorte comme ça. Mais
vous avez la mémoire traumatique et sélective.
Exactement. Ouais. Je devais être horriblement stressé. Je ne sais pas pourquoi je m'étais retrouvé dans ce truc-là.
Bah, en tout cas, c'était très bien pour nous. Merci. Ouais. La crise de nerfs, ça, ce sera pour mercredi prochain au cinéma, dans ce film d'Audrey Dana, où vous participez avec 6 autres hommes angoissés à un stage de développement personnel dans le Vercors. C'est un film aussi drôle qu'émouvant. On va terminer avec d'autres types de crises que vous avez vécues ou racontées à la télé, Thierry Lhermitte.
Alors d'abord, une crise de foi ou crise de mots de vente peut-être. Vous situez le malaise ?
Non.
Dans votre carrière à la télé ?
Allez-y.
C'était dans Bouillante Culture,
l'émission
de Bernard Pivot.
Ouais.
Vous avez dû quitter précipitamment le studio.
Qu'est-ce qu'il part ?
Bernard Clavel.
On a eu des propos un peu de gauche et puis il se barre.
Je viens d'avoir des nouvelles de Thierry Lhermitte, malheureusement elles ne sont pas très drôles, c'est qu'il est vraiment souffrant.
C'est vrai ?
Non, je vous assure, il est vraiment souffrant, il y a un médecin qui s'occupe de lui derrière, enfin, je ne pense pas que ce soit grave, mais non, c'est vrai, il est souffrant. Alors, voilà.
Ah, ça peut refaire monter un petit peu l'audience. Ça. Voilà. On donnera des nouvelles un petit peu plus tard, ne nous quittez pas.
Qu'est-ce qui s'était passé ? C'était le stress de faire une émission aussi prestigieuse ?
C'était le stress de... Moi, j'admirais beaucoup Bernard Pivot, d'Apostrophe et tout
c'était
ça.
C'était pas rien d'être invité à son émission.
Voilà, alors c'était pas Apostrophe, c'est la première fois qu'il faisait une émission sur le cinéma ou le spectacle.
C'était Bouillon de Culture.
Voilà. Et c'était pour le Zèbre. Et moi, j'étais vraiment tellement stressé que j'avais pris un petit Lexomil avant. Et comme on attend toujours dans ces trucs-là, il y avait du champagne. Alors, Lexomil et champagne, ça n'est pas fait.
Ah, non, ça ne fait pas bon ménage.
Bon,
jamais.
Et je me retrouve là, et puis je m'attendais à des questions intéressantes. Et la seule chose qui intéressait Bernard Pivot, c'est de savoir quelle faisait ça, ça faisait de, d'avoir des scènes d'amour avec la femme du metteur en scène, ce qui était le cas. Alors je lui réponds vaguement, et puis il dit « Oui, mais enfin quand même, alors vraiment des scènes d'amour avec la, scène, la femme du metteur en scène, quand même, il regarde là, et, il insiste, et il me fait deux fois, trois fois. » Et moi, ça me désarçonne la bêtise de cette question, de la part d'un mec que j'admirais énormément. Mmh. Et ça me met dans un stress épouvantable, et donc après, il termine l'interview, et là, j'ai une crise de mal d'estomac, mais abominable, je me mets à transpirer mal, et je peux pas rester.
C'était le mélange champagne, ouais. médicaments, et un peu la déception aussi d'interview.
Voilà, exactement, c'était vraiment, j'étais dans un état d'une souffrance physique horrible, et je me suis barré, j'ai enlevé le micro, et je suis parti, ouais.
Vous êtes jamais revenu en plateau?
Non, je suis pas revenu. Alors j'avais honte, je pensais que c'est la fin de ma carrière là. C'était horrible de faire ça. Ouais.
Mais non, vous voyez, finalement,
tout s'oublie,
voilà. Oui, absolument. Ouais. Sauf quand on me le remet sous le nez.
Hein, mais c'est là, pas c'est pas fini.
Non, en plus, c'est bien parce que vous avez servi une transition parfaite. Vous parliez de champagne, on va y rester.
On va réécouter une célèbre crise de rire cette fois. Ça, vous savez déjà, c'était en 1985 dans l'émission Mardi Cinéma. Vous assuriez avec Anémone la promotion du film Le mariage du siècle, et vous aviez manifestement pris la cuite du siècle.
Et alors, qu'est-ce que c'est que cette jeune femme? Elle est...
Je ne comprends pas pourquoi je ris comme ça. Jeune femme, une princesse, très distinguée, princesse.
C'est une princesse?
C'est juste un merde.
Et, et cette princesse voit arriver dans sa vie un playboy.
Oh, fous-nous la paix, merde.
Eh bien, c'est un playboy qui va...
Il va la trancher, comme là, avec trois de
C'était un peu nuit d'ivresse avant l'heure, en fait.
Oui, mais pareil, ces missions enregistrées, ils en faisaient plusieurs dans la journée. Et nous, on était la deuxième ou la troisième, et il fallait arriver très très tôt.
À l'heure de la première,
en fait. Exactement. Et on avait dû attendre 3 heures, un truc comme ça. Et puis, bah, derrière, ils servaient du champagne, et voilà.
Thierry Lhermitte, merci beaucoup d'être venu nous voir. On vous retrouve mercredi prochain au cinéma dans Homme au bord de la crise de nerfs, un film qui vous fera autant de bien qu'à ses participants. À ses côtés, François-Xavier de Maison, Ramzi Bédia, Michael Gregorio, Laurent Stocker de la Comédie Française, Pascal Demolon et le jeune Max Bessette de Malgève.
Merci beaucoup Thierry Lhermitte, toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un habitué de la maison, vous n'oublierez pas de faire tamponner votre carte de fidélité avant de partir.
Merci.
Au bout de 10 émissions, vous avez une tasse, on refait la télé offerte.
Hein. On a décidé
On a peut-être également même peut-être des vinyles d'Herbert Léonard à vous offrir. On fait la télé, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue sur rtl.fr et nos compte Twitter et Instagram où vous retrouverez plein de bonus. Et puis bien sûr, le replay de cette émission est disponible sur l'appli RTL. On vous laisse avec Ophélie Meunier pour son journal inattendu. Elle reçoit aujourd'hui Roberto Alagna. Très bon week-end sur RTL. Ciao, ciao.
Salut.